France Inter.
Radio Star Berlin.
It's morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20. Christelle Rebière.
Un jour dans le monde, ce soir, un jour au Proche-Orient où le conflit menace de s'étendre après les frappes iraniennes dans la nuit de samedi à dimanche sur Israël.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict.
Le Moyen-Orient est au bord du précipice, l'inquiétude du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Alors, une désescalade est-elle possible? Pour en parler, deux invités à la suite. Alona Fischer-Kam, ambassadrice et chargée d'affaires d'Israël en France, bonsoir.
Bonsoir.
Et nous poursuivrons ensuite cette conversation avec le docteur en géopolitique, Frédéric Ancel. Alona Fischer-Kam, Israël peut-il ne pas riposter?
Ce serait difficile. Je me demande s'il y a un pays dans le monde qui pourrait ne pas riposter au cas d'une attaque pareille de plus que 300 drones et missiles balistiques et missiles de croisière. Il s'agit vraiment d'une attaque sans précédent. Il s'agit d'une violation de la loi internationale, de violation de la souveraineté israélienne. Donc je le vois avec beaucoup de difficultés. La possibilité de ne pas riposter.
Mais le risque, évidemment, c'est l'escalade. Donc, comment jauger la riposte? On a senti que c'était très compliqué lors de la réunion du cabinet de guerre hier. Il y a d'ailleurs une nouvelle réunion en ce moment même. Donc, la question, c'est surtout comment riposter?
Il faut être très prudent et c'est pourquoi il y a des débats dans le cabinet, au sein du cabinet, qui vont être très longs. À mon avis, pour trouver un moyen de riposter. Et comme notre gouvernement avait dit, tout d'abord, l'Iran devrait payer un prix et pour cette attaque sans précédent. Et qu'Israël...
qu'est-ce que ça veut dire? À la même hauteur?
Voilà, donc
ça veut dire qu'il va y avoir des centaines de missiles et de drones que les Israéliens vont lancer sur l'Iran?
Ça, on n'a pas dit. Comme vous le savez bien, il n'y avait aucun propos, aucune déclaration de la part d'un dirigeant, que ce soit, qu'il soit militaire ou civil, en Israël concernant le riposte. Certes, notre intention, c'est de ne pas avoir une escalade, de ne pas avoir un embrasement régional. Ce n'est pas de notre intérêt. En même temps, on a été attaqué et d'une manière violente. Et le fait qu'il n'y avait pas trop de victimes, il y avait quand même plus de 10 personnes blessées, tous civils, et y compris une fillette de 7 ans. Et c'est grâce à la défense aérienne israélienne, c'est pas grâce à une sorte de retenue.
C'est une défense. Elle a été extrêmement efficace, puisque 99% des drones et des missiles, en tout cas c'est ce que dit votre pays, ont été neutralisés, interceptés. C'est une victoire, disait hier Joe Biden. C'est une victoire pour vous, Israël, une victoire défensive. Ce qui sous-entend, restons-en là. Et on sent bien aussi que l'Iran veut passer à autre chose. Est-ce qu'on peut en rester là?
De nouveau, ce serait très difficile. Bien sûr, c'est une victoire technologique dans le sens que tout a bien marché. Il y avait, on a intercepté plus que 99% des missiles et des drones. Et bien sûr, avec l'aide, le soutien et de la communauté internationale, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération. Et en même temps, on peut pas être tout le temps sous le chantage de l'Iran. Vous pourriez imaginer qu'une attaque pareille ou une menace à une attaque pareille commencerait à se répéter d'une manière quotidienne ou mensuelle, ce qui va se passer. Donc, il faut mettre fin à cette menace. De l'Iran. Et l'Iran, c'est l'idéologie de l'Iran de faire détruire l'État d'Israël. Donc, c'est pas une chose qui s'est passé une seule nuit et voilà, c'est terminé.
Donc une riposte au risque de perdre le soutien de vos principaux alliés. Alors, les États-Unis ont rappelé encore leur soutien inébranlable aujourd'hui, mais c'est pas si simple. On sait bien qu'il va y avoir une élection américaine dans les prochains mois. Et puis, les États-Unis sont aussi critiques vis-à-vis de la famine à Gaza. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre aussi, par exemple, le soutien de la Grande-Bretagne ou le soutien de la France?
Le soutien de la communauté internationale est important. Et je crois que ce soutien doit continuer. Mais il peut recevoir beaucoup de formes, je dirais, parce que maintenant, je crois que il faut commencer, par exemple, à penser à des sanctions. Il n'y avait jamais des sanctions sur l'industrie des missiles. Oui. Et Israël a averti depuis des années du danger venant des missiles iraniens qui peuvent aboutir pas seulement à Israël, ils peuvent arriver à 5000 kilomètres, pas seulement à 2000 kilomètres. Donc c'est une menace permanente qui existe. Et peut-être c'est le temps que cette coalition qui a été créée, pas seulement avec des pays occidentaux, aussi
des
avec
pays
des pays arabes, qui se sentent aussi menacés. Ils ne l'ont pas fait pour la défense d'Israël. Ils l'ont fait pour leur propre défense, parce que c'est aussi une menace contre eux. Donc peut-être c'est le moment de voir aussi quelles sont les mesures diplomatiques qu'on peut prendre pour freiner l'Iran. Et à mon avis, il y a pas mal de choses qu'on peut considérer.
Tout est parti de ce qui s'est passé le 1er avril, un tir de missile contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran en Syrie. Parmi les victimes, il y avait le général Zaidi, commandant en Syrie et au Liban des forces Al-Quds, cette unité d'élite basée à l'étranger, des gardiens de la révolution. C'était un personnage important. Le tir a été attribué à Israël. Votre pays en est-il à l'origine ?
Tout d'abord, c'est une attaque attribuée à Israël. Elle n'a jamais été revendiquée par Israël. Mais une toute petite précision, il ne s'agit pas du consulat, il s'agit d'un annexe.
D'une annexe. De l'ambassade.
Et qui n'est pas sous l'égide diplomatique. Et dans lequel, et ce qu'on avait ciblé, c'est pas le bâtiment, bien sûr. Ce sont les terroristes qui étaient dedans. Et c'est bien évident, ce sont eux et le cible. Et de l'attaque attribuée à Israël.
Et pourquoi Israël ne veut pas revendiquer cette attaque ? Vous avez dit « on a » tout à l'heure. C'était un lapsus ?
Parce que depuis des années, on garde une certaine ambiguïté. Et je dirais, je ne vois aucune raison de revendiquer. Donc c'est une chose qui est attribuée à Israël. C'est une attaque qui est attribuée à Israël.
Pourquoi cette attaque iranienne maintenant et de manière frontale, alors que d'habitude l'Iran utilise le Hezbollah libanais ou encore les rebelles houthis du Yémen ? Parce que Israël est affaibli dans la guerre à Gaza aujourd'hui ?
Je ne crois pas. Et c'est vrai que le conflit entre l'Iran et Israël, et je dirais même entre le régime iranien, parce qu'avec l'Iran, non, on n'a aucun conflit, c'est le régime qui veut détruire l'État d'Israël et a commencé depuis 79. C'est pas quelque chose de nouveau et c'est la stratégie de l'Iran de détruire l'État d'Israël et c'est même une obsession et de détruire l'État d'Israël. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, ils préféraient le faire à travers de ce qu'on appelle des proxys, des alliés qui sont une sorte de marionnette, si on peut dire.
Le proxy pour la proximité. Hein.
Voilà. Qui sont sur les frontières d'Israël, parce que l'Iran est assez loin d'Israël. Donc pour nuire aux intérêts d'Israël, pour nuire à la sécurité d'Israël, il vaut mieux avoir des proxys. Donc on a le Hezbollah, et on a le Hamas, et on a le Houthi. Et maintenant, c'est une décision prise par l'Iran d'attaquer directement Israël. Et bien sûr, c'est un risque qu'ils prennent, un risque tout d'abord d'une riposte et deuxièmement d'un embrasement régional. Mais pour nous, l'Iran en tout cas était toujours derrière les coulisses et derrière toutes les attaques qu'Israël a subies depuis longtemps.
Une dernière question, Israël a lancé des dizaines de frappes sur la bande de Gaza aujourd'hui. Est-ce que ça fait partie de votre riposte et est-ce que ça renforce votre détermination vis-à-vis du Hamas ?
Je crois que ce qui se passe à Gaza n'a rien à voir avec... Bien sûr, il a à voir avec ce qui se passe avec l'Iran. Il y a beaucoup de choses au commun entre les deux. Mais entre-temps, nous avons un front différent qui est le front de Gaza. Et nous avons encore 133 otages en main du Hamas. Nous avons encore le Hamas au pouvoir. Nous avons encore le dispositif militaire du Hamas. Mmh. Nous avons encore la menace du Hamas à la population du sud d'Israël. Donc, nous avons encore des objectifs à atteindre et à Gaza.
Merci infiniment. Merci Alona Fischer-Kam d'être passée par France Inter. Je rappelle que vous êtes ambassadrice et chargée d'affaires d'Israël en France. Bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po. Comment faire redescendre la pression aujourd'hui ?
Via les États-Unis, dont beaucoup d'observateurs très paresseux ces dernières années considéraient qu'ils avaient disparu du Moyen-Orient, en tout cas comme grande puissance clé. Or, on voit bien que les Américains, dans cette séquence générale, depuis au moins le grand pogrom du Hamas perpétré le 7 octobre, que c'est la seule et unique grande puissance du Moyen-Orient. Et on a bien vu d'ailleurs que M. Biden a réussi tour à tour à la fois à tordre le bras au Premier ministre Netanyahou, notamment sur les questions... des questions humanitaires dans la bande de Gaza, et en même temps, les États-Unis ont immédiatement averti toute autre puissance qu'ils défendraient Israël, et ils l'ont fait.
Et ils viennent de le redire, ils viennent de le redire aujourd'hui.
Bien sûr,
ils viennent de le redire. Ils étaient de leur côté, qu'ils leur soutien inébranlable, puisque ce sont les termes utilisés. Ce sont des mots qui ont été prononcés encore aujourd'hui.
Absolument, et sans même parler seulement d'Israël, les États-Unis sont la seule puissance hors Moyen-Orient, je dis hors Moyen-Orient, mais ils disposent de plusieurs bases tout à fait fondamentales dans la région, et de deux flottes de guerre supérieure à toutes les autres qui naviguent dans ces eaux-là. Donc, ce sont les seuls à pouvoir, alors peut-être pas tout réussir, mais en tout cas orienter ici ou là telle ou telle politique. Et pour vous répondre concrètement, je le dis d'un mot, je pense que les États-Unis ont la volonté aujourd'hui de tenter la désescalade, notamment parce que s'il y avait une guerre de haute intensité entre Israël et l'Iran, eh bien, tout le Golfe serait touché, et notamment le fameux détroit d'Ormuz. Et je rappelle que
intérêt économique majeur.
Absolument majeur pour l'Europe, pour la Chine, pour les États-Unis, pour le monde entier. Exactement.
À cause du pétrole, Joe Biden, à l'instant, assure avoir vouloir éviter un embrasement au Moyen-Orient. Donc c'est exactement ce que vous venez de nous expliquer. Les États-Unis ont-ils un pouvoir de dissuasion ?
Ils ont un pouvoir de dissuasion parce qu'ils disposent à la fois des carottes et des bâtons. Et ça, aucune autre puissance aujourd'hui, ou aucun autre pôle, je pense notamment à l'Union Européenne, ne dispose de ces deux facettes. Lorsqu'il s'agit du processus de paix d'Oslo en 93, Clinton propose des carottes aux deux parties. Lorsqu'il s'agit en 1978 du traité de Camp David entre l'Égypte et Israël, les États-Unis proposent des carottes aux deux parties pour accélérer le processus de paix et finalement la signature de la paix. Et à l'inverse, les États-Unis ont à plusieurs reprises menacé à la fois Israël, mais l'autorité palestinienne aussi, notamment de sanctions économiques, alors pas militaires évidemment, mais de sanctions économiques qui ont pu être tout à fait déterminantes. Je pense notamment à 1991 avec le premier ministre israélien Yitzhak Shamir. Donc, si vous voulez, c'est aujourd'hui, encore une fois, j'y reviens, ils ont la capacité de... Est-ce qu'ils auront la volonté d'essayer de forcer et en pleine campagne électorale, les uns et les autres,
des escalades. Il y a un risque politique pour Joe Biden.
Il y a un risque politique majeur, mais ça, vous savez, c'est la vie politique américaine depuis la création de ce pays.
Alors, avec cette frappe de l'Iran sur Israël, ce qui est inédit, on le rappelle, depuis l'arrivée au pouvoir des Mollahs en Iran en 1979, est-ce que, selon vous, Frédéric Ancel, on est entré dans une nouvelle ère géopolitique ?
Eh bien, moi, je ne crois pas. Parce que voilà très longtemps déjà que je constate que ce régime, alors par ailleurs parfaitement immoral et fanatique, n'est pas pour autant un régime d'imbéciles. Et certainement pas sur le plan des rapports de force. C'est-à-dire que l'Iran a, jusque-là y compris ces dernières heures à mon avis, a toujours fait preuve d'un certain pragmatisme, d'une certaine prudence, je parle bien de la défense et des affaires étrangères, et notamment vis-à-vis d'Israël. En particulier, en envoyant les autres faire la guerre à leur place. Tout à l'heure on a évoqué le Hezbollah, les Houthis du Yémen et d'autres types de milices. Alors là, effectivement, pour la première fois, ils ont frappé le sol israélien. Je pense qu'un cap à la fois symbolique et géographique a été passé, mais pas un changement fondamental de paradigme.
Donc le verrou de la guerre psychologique n'a pas sauté, selon vous ?
Ah, pour moi, il a d'autant moins sauté que les Israéliens restent maîtres en réalité de la décision finale. Je veux dire par là que l'escalade ne peut pas, à terme, si elle devait malheureusement, ce que je ne crois pas, mais si elle devait prévaloir et si on devait arriver à ce que le stratège prussien du 19e Clausewitz appelait la montée aux extrêmes, l'Iran ne pourrait pas gagner. La dernière phase, la dernière marche de l'escalade appartiendrait à Israël et les Iraniens le savent très bien.
Vous avez entendu l'interview il y a quelques minutes de l'ambassadrice d'Israël en France qui était dans ce studio près de vous. La riposte est quasi certaine, c'est une évidence. Quelle forme peut-elle prendre ?
Alors moi, je pense qu'elle n'est pas quasi certaine, elle est certaine, parce qu'il en va de la crédibilité dissuasive d'Israël, qui par ailleurs a été écornée, hein, cette crédibilité, le 7 octobre. Donc l'état-major, le gouvernement et au fond la population souhaitent maintenir, en tout cas, à tout le moins, cette crédibilité dissuasive qui est un peu l'assurance-vie d'Israël au Moyen-Orient. Mais je ne crois pas à une riposte massive, aérienne, spectaculaire, revendiquée sur le sol iranien. Je pense, d'ailleurs, les États-Unis s'y sont opposés et les alliés arabes d'Israël, je dis bien les alliés arabes d'Israël, vous voyez, on est plus à l'époque de la guerre de Kippour d'il y a 50 ans, et pour cause, ne le souhaitent pas non plus, pas davantage que les Européens. Donc moi, je crois à une stratégie périphérique. C'est-à-dire que les Israéliens peuvent parfaitement accroître, augmenter, ils le font avec une certaine efficacité tout de même ces derniers mois, leur pression via des frappes ciblées sur des cibles alors iraniennes, mais au Liban ou en Syrie, ça s'est déjà produit, vous l'avez rappelé, le 1er avril, ou sur
c'est-à-dire
le Hezbollah.
Cibler le Hezbollah, par exemple.
Bien sûr, le Hezbollah, puisque c'est vraiment le proxy et c'est l'instrument au pouvoir entre les mains de Téhéran, d'ailleurs créé de toutes pièces par Téhéran en 82. Sur le Hezbollah, éventuellement sur les Houssis, mais enfin c'est un adversaire moins sérieux, et poursuivre, mais sans les revendiquer nécessairement, des coups de force qui sont attribués à Israël à tort ou à raison ces dernières années sur le sol iranien. Et notamment dans le domaine du nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'Israéliens disent, je répète en deux mots, je traduis en deux mots, ils disent, mais si ils ont la volonté et la capacité technique, même si ça n'a pas très bien marché cette fois-ci, de propulser des missiles sur Israël, qu'en sera-t-il lorsque l'un d'eux sera porteur d'une tête nucléaire? Et de ce point de vue-là, je pense que les Israéliens vont vraisemblablement, dans le cadre de leur riposte, pour vous répondre concrètement, cibler, mais sans le revendiquer, des coups de force auxquels ils sont déjà accoutumés, hein, sur le sol iranien.
La République islamique a appelé dès 1979 à la destruction d'Israël. Israël, après l'attaque du 7 octobre, a appelé à la destruction du Hamas. Est-ce qu'on peut sortir de cet engrenage ?
On peut en sortir par un véritable processus de paix entre Israël d'une part, l'autorité palestinienne d'autre part, alors évidemment avec un autre gouvernement israélien, sans le Hamas évidemment, avec l'autorité palestinienne, hein, qui est la seule entité palestinienne légale et légitime en droit international. Mais à ce moment-là, l'Iran fera tout et ses proxys, notamment le Hezbollah, fera tout pour empêcher ce processus de paix. Et moi, je suis de ceux qui, alors peut-être assez optimistes, considèrent que aujourd'hui, nous avons, avec des États arabes modérés, l'Arabie Saoudite et les Émirats notamment, avec l'autorité palestinienne qui semble enfin être prête à revenir dans la bande de Gaza, mais dans des conditions évidemment meilleures que celles qui prévalent aujourd'hui, et c'est le moins qu'on puisse dire. Avec un autre gouvernement israélien, celui-ci de toute façon, politiquement, enfin, il est en sursis. Bon. Et si tant est que, pardon d'ajouter cette cerise sur le gâteau, mais c'est pas encore sûr, si Biden devait être réélu, on a là toute une série des planètes, comme on dit, alignées sur un axe plutôt positif, et je pense qu'à ce moment-là, l'Iran et le Hezbollah ne parviendraient pas à casser une dynamique de paix dans la région.
Merci infiniment Frédéric Ancel. Je rappelle que vous êtes auteur de « Les 100 mots pour la guerre » publié aux éditions PUF. Merci beaucoup.
Le 18-20, Christelle Rebière, sur France Inter.
La suite ce soir se passe en Polynésie française. Nous suivons le navire Plastic Odyssée qui ramasse et recycle les déchets dans les océans. Ici, il s'intéresse aux filets dans lesquels on cultive les huîtres perlières. Et pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche sous les radars.
Au Brésil, où des joueuses de foot manifestent contre le retour d'un entraîneur accusé de harcèlement.
Le Monde à 18h50, c'est avec vous toute la semaine, Frédéric Saïs. Bonsoir.
Bonsoir Christelle. Les ambassades sont-elles toujours des sanctuaires ? De plus en plus, les enceintes diplomatiques sont prises pour cible.
Et la BO du Monde, Cyril Sauvageau, donne elle aussi dans le recyclage.
Le disque vinyle éco-responsable, une perspective d'avenir. La star Billie Eilish montre l'exemple.
A tout de suite, pour l'instant, on se laisse emporter par la poésie amoureuse de Bob Dylan, She Belongs to Me, une chanson sortie en 1965 et reprise par Cat Power.
She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing proud to steal her anything she sees. You will start out standing proud to steal her anything she sees.
sees. But you'll wind up peeking through a keyhole down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks. An Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector, you are a walking antique.
Le reportage est en Polynésie française ce soir à bord du Plastic Odyssey, un bateau laboratoire de 39 mètres. Il explore les mers du monde en quête de solutions pour réduire la pollution plastique et dans ses cales, des machines pour transformer directement le plastique en matériaux de construction ou encore en mobilier. Pour ce premier épisode de la semaine, le bateau fait escale à Mangareva dans une ferme perlière. La perliculture, c'est le deuxième revenu du territoire après le tourisme et avant la pêche. Plus de 50 millions d'euros de recettes, 9 tonnes de perles exportées en 2022. Une activité juteuse, mais qui utilise aussi beaucoup de plastique. C'est un reportage de Margot Bédé et Quentin Pommier.
Au milieu d'un lagon paradisiaque, une dizaine de cabanes sur pilotis parachèvent le paysage de carte postale. Ces petites maisons sont des fermes perlières.
Bienvenue, c'est la ferme.
Dans cette entreprise familiale, Magali Deveau, la fille du patron, gère l'exploitation.
Attention de ne pas glisser, attention au cône. On marche.
Il y a des petits ponts qui nous permettent de circuler entre les différentes plateformes. Alors là, il y a un filet dans lequel se trouve une huître, mais qu'on appelle une nacre.
Une nacre, oui, c'est bien ça. Et d'où elle a été greffée, il y a... tiens, tu vois, c'est comme...
Une petite étiquette qui est accrochée au filet.
De 12-2022.
Ici, 4000 perles sont extraites chaque jour.
Celles-là, elles sont... prête à être récoltée.
Et ces filets en plastique dans lesquels se développent les nacres, ils durent combien de temps?
2 à 3 ans. Il y a des moments où on se retrouve avec trop et puis ils peuvent rester stockés à terre pendant des mois et puis on ne sait pas trop quoi en faire. Mais on a besoin de ce matériau pour travailler.
Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est encore des collecteurs.
De retour à terre, Dominique Deveau, le fondateur de l'exploitation, se rend derrière un hangar où plusieurs centaines de kilos de déchets s'amoncellent.
Depuis 2 ans maintenant, on rapatrie nos déchets sur Tahiti.
Des déchets qui seront enfouis sur l'île et non recyclés.
En tout, je crois qu'on a dû rapatrier déjà quelque chose comme 400 mètres cubes. Mais auparavant, je sais qu'il y en a qui brûlaient. Heureusement que j'avais pas mal de surface pour pouvoir entreposer parce que j'avais pas la solution. La seule chose que je savais, c'est qu'il fallait garder les choses, quoi. Il fallait garder tous ces déchets.
Les équipes du Plastic Odyssey sont venues ramasser des échantillons de matériel usagé pour essayer de les revaloriser.
À tout à l'heure.
À bord du bateau, les déchets plastiques sont broyés et transformés en pièces pour le bâtiment ou la vie quotidienne. Les machines ont été développées à moindre coût et de façon simple pour rendre accessible la revalorisation du plastique.
Bienvenue dans l'atelier, Dominique.
Maxime Thirouin, ingénieur en recyclage sur le Plastic Odyssey, présente le résultat aux perliculteurs.
Donc on a fait des tests avec les grillages de ta ferme de perliculture.
On obtient un broyat de plastique qui est... assez différent de d'habitude, qui est un peu plus fibreux. Mais c'est un broyat qui, pour nous, est très facilement utilisable et qu'on peut mettre directement dans l'extrudeuse pour transformer ces anciens grillages en nouveau produit fini.
Un aboutissement qui redonne espoir à Dominique Deveau.
Il y a des solutions et voilà, c'est bien, c'est très bien. Et il faut espérer que nos élus soient aussi sensibles. Je pense qu'il faut vraiment développer cette filière, surtout dans les îles.
C'est justement l'objectif de Thomas Trofim. Il s'occupe de la gestion des ressources aquatiques à la direction des ressources marines en Polynésie française.
On est à un stade où on recherche des techniques de revalorisation qui sont fiables, qu'on puisse présenter à différents industriels pour leur montrer que c'est possible de lancer une filière de revalorisation en Polynésie française. La prochaine étape sera donc de convaincre les industriels et les politiques de l'intérêt d'investir dans la mise en place d'une filière de revalorisation.
Depuis le développement de l'activité perlicole il y a 60 ans, la direction des ressources marines estime que les fermes perlières ont produit 90 000 mètres cubes de déchets plastiques.
Merci Marco BD. Demain, deuxième épisode, nous serons avec une classe à bord du Plastique Odyssée. L'actualité passée sous les radars avec Kevin Dufraîche. Nous sommes d'abord en Afghanistan, Kevin, où la pluie fait des ravages.
Oui, des trombes d'eau s'abattent ces derniers jours sur une grande partie du pays. Résultat, inondations, torrents de boue et glissements de terrain qui, d'après les autorités, ont fait au moins 33 morts depuis vendredi. En mars, déjà 60 personnes avaient péri dans des intempéries en Afghanistan. D'après le département taliban de la gestion des catastrophes, près de 600 maisons ont été détruites. Ce sont d'ailleurs les chutes de toitures qui font le plus de victimes. Des centaines de kilomètres de routes sont endommagées, sans parler des champs inondés et du bétail qui tombe malade. C'est la saison des pluies dans le pays, mais là ça tombe très fort et ce n'est d'ailleurs pas terminé. Encore beaucoup de pluies prévues ces prochains jours. Et puis il faut rappeler que l'Afghanistan est l'un des pays les plus pauvres du monde, ravagé par la guerre et qu'il n'a pas du tout les moyens de s'adapter aux conséquences du changement climatique.
Nous voici au Brésil avec un mouvement de protestation sur les terrains de foot.
Des joueuses qui se couvrent la bouche au moment d'entrer sur le terrain. Voilà ce que l'on a pu voir ce week-end sur les pelouses du championnat professionnel féminin. Plusieurs équipes ont ainsi marqué leur opposition au retour de Clayton Lima sur le banc de Santos. En septembre dernier, 19 joueuses ont écrit anonymement à leur club pour dénoncer des faits de harcèlement sexuel et moral de la part de leur entraîneur Clayton Lima, notamment pendant les entraînements. Lima s'est toujours défendu de ces accusations. Il avait tout de même démissionné, mais là, début avril, le club de Sao Paulo a annoncé son retour, estimant qu'il n'y avait pas de preuves des faits reproché. La responsable de la section féminine de Santos, estimant même, je cite, que ces accusations fragiles ont inutilement terni l'histoire du club. La saison vient de commencer au Brésil, à voir si ces gestes de solidarité et de manifestation se poursuivent.
Enfin, nous sommes en Chine avec de gros soupçons de triche.
Oui, et là, on parle de course à pied. Les organisateurs du semi-marathon de Pékin annoncent l'ouverture d'une enquête après la victoire dédié hier. Le Chinois de 25 ans, qui espère se qualifier pour le marathon des Jeux de Paris, a remporté l'épreuve d'un souffle, une seconde, devant un trio composé de deux coureurs kényans et d'un éthiopien. Sauf que les images de l'arrivée montrent une scène assez incroyable. À 500 mètres de la ligne, Eje est clairement distancé, mais d'un coup, le trio de tête ralentit, semble l'attendre. Un de ses adversaires lui montre même le chemin à suivre, alors qu'il semblait prendre la mauvaise direction. Il passe alors devant les trois athlètes africains et s'impose devant eux, chaleureusement félicité par ses concurrents. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, c'est assez lunaire. Au journal South China Morning Post, le Kenyan Willy Nangat, qui fait partie du trio, a admis qu'il avait laissé gagner l'athlète chinois parce que, je cite, c'est son ami.
Oui.
Vraie amitié ou vraie magouille, le temps le dira peut-être.
Merci Kevin, on vous laisse partir en bonne compagnie, celle de Pink Martini qui vous emmène passer la nuit à Naples. On aime bien les chansons d'amour ce soir dans le 18-20.
Con lui volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera. In paradiso oltre le nuvole, balza d'amore come le lucciole.
tutto deve finire.
Le groupe américain Pink Martini, qui célébrera ses 30 ans de carrière lors d'un concert exceptionnel le mercredi 14 mai 2025 à l'Accord Arena de Paris. On vous aura prévenu suffisamment à l'avance. Le Monde à 18h50, c'est Frédéric Saïs.
Christelle Robière. Le 18-20.
Ces dernières semaines, Frédéric, des ambassades ou des consulats ont été ciblés dans plusieurs conflits au mépris du droit international. Vous vous demandez donc ce soir si les bâtiments diplomatiques sont encore des sanctuaires.
Oui, avec deux exemples récents, Christelle. Il y a deux semaines, le 1er avril, des missiles se sont abattus sur le consulat iranien à Damas, en Syrie. Une attaque imputée à Israël, qui ne confirme ni ne dément son implication. Vous avez entendu il y a quelques minutes l'ambassadrice israélienne. Cette frappe visait deux généraux iranien présent dans ses locaux, mitoyen de l'ambassade d'Iran. Téhéran a pris prétexte de cette frappe pour riposter ce week-end avec une vague de missiles et de drones. Deuxième exemple, il y a 10 jours, en Équateur, petit pays d'Amérique latine, une escouade de policiers est entrée de force dans l'ambassade mexicaine. Ils y ont interpellé un ancien politicien équatorien accusé de corruption qui s'était réfugié dans cette ambassade, lieu théoriquement inviolable pour échapper aux poursuites judiciaires.
Et précisément, que dit le droit international à propos des enceintes diplomatiques?
Alors évacuons d'abord une légende tenace. Non, les ambassades ne sont pas considérées comme des territoires étrangers. Pour prendre un exemple simple, l'ambassade de France en Espagne est bien située sur le territoire espagnol. Ce n'est pas un îlot qui appartiendrait à la France. En revanche, le droit international prévoit l'inviolabilité de ces bâtiments, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des sanctuaires. Ni la police, ni la justice du pays d'accueil ne peuvent y entrer, sauf autorisation de l'ambassadeur, évidemment. Ces enceintes diplomatiques ne doivent pas être visées ni prises à partie. C'est la convention de Vienne, 1961, qui inscrit noir sur blanc ce principe d'inviolabilité. Voilà pourquoi, par exemple, le lanceur d'alerte Julian Assange, poursuivi par les États-Unis, a trouvé refuge pendant 7 ans au sein de l'ambassade équatorienne à Londres. Impossible pour les policiers britanniques d'entrer sans autorisation. La violation d'une enceinte diplomatique est donc considérée comme un acte extrêmement offensif. D'ailleurs, après le raid policier subi récemment par son ambassade, le Mexique a rompu les relations diplomatiques avec l'Équateur. L'intrusion a été condamnée par l'Union européenne, par les États-Unis et la Cour internationale de justice saisie.
Alors, on l'a bien compris, les ambassades ne sont donc plus des sanctuaires. De quoi est-ce le symptôme?
Ce sont des digues mentales qui sautent, l'affaiblissement des principes communs, des règles du jeu international au profit de la force. Une frappe contre un consulat, une intrusion policière dans une ambassade, de fait rarissime, sinon inédit, me disait Frédéric Ramel, spécialiste des relations internationales, professeur à Sciences Po. Même pendant la guerre froide entre soviétiques et américains, ça n'est jamais arrivé. On s'espionnait mutuellement. De temps à autre, on expulsait quelques diplomates soupçonnés d'être des agents secrets, mais jamais d'agression contre une représentation diplomatique. Le seul événement similaire, c'est la prise d'otage dans l'ambassade américaine en Iran au moment de la révolution islamique en 1979. Et à l'époque, le monde entier avait conspué cette méthode, rappelle le chercheur Guillaume Devin. Voilà donc, ces dernières semaines, coup sur coup, des actes qui sonnent comme des précédents dangereux où la fin prime sur les moyens, le tout sous le regard impuissant des institutions internationales.
Merci Frédéric, et à demain.
À demain.
France Inter. Le 18-20.
La BO du Monde, c'est tous les lundis avec Cyril Sauvageau. Ce soir, on revient, Cyril, sur cette annonce de la star américaine Billie Eilish. Son prochain album, dont la sortie est prévue le 17 mai, sera pressé sur des vinyles recyclés. C'est une première pour une artiste de son envergure.
Et c'est la preuve que Billie Eilish ne fait décidément rien comme les autres. Celle qui est devenue l'une des plus grandes stars de la pop mondiale ces dernières années ne veut pas se contenter d'être une vulgaire machine à cash. Elle a déjà démontré sa capacité à faire preuve d'audace musicalement, à s'engager aussi pour la cause climatique. Aujourd'hui, elle s'interroge sur l'empreinte carbone de ses disques. Don't take it out. Le nouveau Billie Eilish, intitulé « Hit Me Hard and Soft », sera donc pressé à partir de matériaux recyclés, la technique du bio-vinyle, qui permet de réduire de 90% les émissions de CO2 par rapport à un vinyle standard. Même chose pour les éditions couleurs, qui sont également prévues, ça se fait beaucoup, ces vinyles colorés en édition limitée. La chanteuse promet de limiter le nombre d'éditions et d'avoir recours là aussi au recyclage. La pochette, le packaging de l'album répondront aux mêmes exigences. Billie Eilish n'est pas la seule à se questionner sur ce sujet. En 2019, un chanteur anglais, Nick Mulvey, avait fait parler de lui en faisant presser un vinyle à base de déchets plastiques repêchés dans l'océan. C'était pour ce single « In the Anthropocene ». Stumbling through my dreams, sailing on the sky, the voices of future beings remind me to feel.
L'objectif de ces initiatives encore isolées, Cyril, c'est donc de susciter le débat dans l'industrie musicale sur le coût écologique de la fabrication de disques.
C'est le revers de la médaille du grand retour du vinyle. Rappelons quelques chiffres. L'an passé, il s'est vendu plus de 33 tours que de CD aux États-Unis et en Grande-Bretagne, une première depuis le milieu des années 80. Et en France aussi, les ventes progressent fortement. Le problème, c'est que pour faire des vinyles, il faut environ 40% de PVC, du plastique, donc du pétrole, avec tout ce que cela implique de toxicité et de dégâts pour l'environnement. Pourtant, les alternatives existent. En tout cas, elles commencent à émerger. Deux pistes. La première consiste à produire moins. De petites structures s'emploient désormais à presser les disques en toute petite quantité, sans gaspillage. Les disques sont gravés à la demande, une méthode évidemment impossible à mettre en œuvre à grande échelle, mais c'est une première façon de questionner le modèle industriel en vigueur. Et puis l'autre solution, c'est donc de travailler sur les matériaux utilisés. Le plexiglas, par exemple, également issu du plastique, mais qui se recycle plus facilement. Ou encore, c'est plus original, le vinyle à base de canne à sucre. C'est une start-up anglaise qui s'est lancée sur ce créneau. Le sucre remplace le pétrole dans la composition du bioplastique. Le résultat est prometteur, d'autant que ce matériau peut être utilisé avec les mêmes machines, les mêmes presses à vinyle. Les créateurs de ce « vinyle bio », entre guillemets, ont commencé à collaborer avec des maisons de disques comme le label anglais Ninja Tune pour une compilation parue en 2022. Jusque-là, ces initiatives sont restées confidentielles. Peut-être Billie Eilish fera-t-elle changer les choses en démontrant que le vinyle éco-responsable est une perspective réaliste.
L'idée du vinyle à base de canne à sucre, faut voir. Merci Cyril Sauvageau, à lundi prochain. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h, présenté par Éric Delvaux. Et puis le téléphone sonne, bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20, ce soir un sacré chantier.
Ben oui, celui de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'incendie, c'était il y a 5 ans pile, en plein téléphone sonne.
On va parler dans un instant de ce qu'on a là en face de nous, encore une fois sur des images. La flèche de Notre-Dame est en feu. Ouais. Je ne sais même pas si elle est encore debout au moment où on se parle. On va vous donner des informations. La flèche est tombée.
Elle
on dit
tombée,
à l'instant que la flèche de Notre-Dame vient de tomber.
Alors depuis, Fabienne s'est remise et surtout le chantier de rénovation a avancé très vite. La réouverture est prévue pour le 8 décembre prochain. La flèche est de retour. La couverture de la nouvelle charpente a commencé. Le pignon sud du transept va bientôt être libéré des échafaudages. Isabelle, par mail, s'inquiète pour les grandes orgues. Grosso modo, écrit-elle, elles ont été épargnées par l'incendie, mais elles ont dû être démontées en vue d'une sérieuse révision. Je souhaiterais avoir des nouvelles. Eh bien, on donnera des nouvelles des grandes orgues et on attend toutes vos questions.
Et oui, toutes vos questions au téléphone et sur WhatsApp 01 45 24 7000. Merci de passer ce début de soirée avec nous. Vous l'avez entendu, il est 19h sur Inter.